terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 188e émission sur les ondes de Divergence FM, Radio Escapade et Radio Larzac. Au sommaire de cette 188e émission, la revue de presse de l'april pour la semaine 48 avec Luc, Manu et non, elles sont juste tous les deux cette semaine. Retour sur les JM2L qui se tenaient le week-end dernier à Sophia Antipolis. Un petit bilan avec Véronique Fritière au micro de Jean-François Ferry, mesdames et messieurs. Et puis, il était présent à ces fameuses JM2L pour intervenir à une double reprise. Benjamin Bayard, expert en télécommunications et président de French Data Network, le plus ancien fournisseur d'accès à Internet en France encore en exercice, militant pour les libertés fondamentales dans la société de l'information par la neutralité du net et le logiciel libre. Ces prises de position en ont fait une personnalité remarquée de l'Internet français. Un retour sur l'activité gouvernementale. Peut-on avoir confiance dans les réseaux et les outils que l'on utilise? Le cas de la proposition d'Isabelle Attard de TVA à taux plein pour les e-books DRMisés, le rôle des administrations centrales, les enjeux du numérique qui ne sont pas un contenu électoral, hélas, comment changer le fatalisme bien pratique qui évite le débat, les mécanismes antidémocratiques des traités, commercialisation des données et neutralité, Facebook, le pouvoir d'un éditeur sans les responsabilités, une entreprise n'est pas un animal moral, elle peut faire pipi par terre, les actions menées qui vont dans le bon sens, surveillance, un projet de prisme à la française dans la loi de programmation militaire. Prendre son téléphone et appeler les élus, ça fonctionne quand même. Et même quand on perd, ça produit un effet. Debout citoyens numériques seront les grandes lignes de cet entretien téléphonique avec Benjamin Bayard qui occupera une bonne partie de cette 188e divergence numérique dans laquelle on parlera aussi un petit peu des JRES 2013 qui se tiendront au Quorum du 10 au 13 décembre au Quorum de Montpellier. Les 10e journées réseau de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'état de l'art des réseaux de l'enseignement et de la recherche à Montpellier. Tout plein d'intervenants y seront présents, aussi des représentants du logiciel libre que nous irons interroger au courant de cette semaine. Pour la semaine qui nous occupe, avant de démarrer avec la revue de presse de l'April, un petit clin d'œil à notre fil musical du jour, le rappeur Yuri qui nous a tapé dans les oreilles cette semaine et dont on écoutera quelques titres sous licence Creative Commons by SA 3.0. Tout de suite donc et sans plus attendre, la revue de presse de l'April pour la semaine 48 de l'année 2013.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 48, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Bah cette semaine, on n'est que tous les deux, donc on va faire efficace. Parlons du sommaire.
On va faire brut, 7 beaux articles. Un premier sur le journalisme, les Anonymous, la circulaire du préfet de l'Isère qui fait encore parler d'elle, la LPM, on va vous expliquer, l'État tunisien et Microsoft, le hacker du Parlement européen, et pour finir, l'open data et ses licences.
Agoravox, du journalisme au journalisme open source, un article de Vincent Verschoor. Voilà, c'est un nom flamand, donc jamais facile à prononcer.
Et oui, de haut, c'est pas simple. Donc un article intéressant qui reparle d'une conférence qui avait été organisée au FOSA, Free Open Source Software for Academia. Et dans ces conférences, il y a eu des discussions qui avaient l'air d'être vraiment pertinentes par rapport à nos enjeux sur le journalisme. Et justement, il y avait des professionnels, des amateurs, on pourrait dire, et ils ont parlé, semblerait, de journalisme open source, libre, et des différentes caractéristiques qu'il pouvait avoir.
Open source en tout cas, c'est ce qu'il y a dans l'article. Il a oui. Même mis le logo de l'OSI, hein, du mouvement de l'open source initiative. Pas sûr qu'il y ait un grand lien avec le sujet, en tout cas que l'OSI soit impliqué là-dedans. Donc cette idée de faire du journalisme open source, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas des professionnels. Et il y a toute une série de critères qui ont été décrits pour ce truc-là.
Alors 8 critères, dont certains nous font terriblement plaisir, mais d'autres par contre sont peut-être un peu étranges, et même on pourrait considérer qu'ils sortent un peu du cadre. Alors, premier critère qui est vraiment intéressant, des sources d'informations vérifiables, oui, c'est pas mal. Deuxième critère, action et participation, il faut que les gens puissent travailler, il faut qu'on leur donne des pistes d'action, oui. L'authenticité, oui, certes. La prospective, oui, il faut faire de la prospective dans les articles, là j'ai du mal.
Oui, c'est là où on commence à avoir un petit peu de mal. C'est l'idée selon laquelle la personne qui fait l'article doit avoir de l'analyse et dire « bon, bah voilà où on en est, voilà où ça risque d'aller ». Sous-entendu, les journalistes professionnels ne font que donner des informations brutes sans aucun cadre et sans essayer de réfléchir derrière. C'est peut-être un peu caricatural.
Donc de la transparence éditoriale, contrôle de version, pourquoi pas effectivement, durabilité, il faut que ça tienne le choc dans le temps. Et dernier article qui a peut-être fait tiquer les étudiants en journalisme qui étaient là, la gratuité. Et même nous, ça nous fait tiquer aussi parce que bah, dans le logiciel libre, la gratuité n'est pas un critère.
Et oui, libre n'est pas gratuit, c'est quelque chose qu'on dit très très souvent. On peut vendre du logiciel libre et bien souvent les gens qui en font bénévolement, ils ont une motivation personnelle de type apprendre une nouvelle techno ou s'amuser ou des choses comme ça. Donc c'est jamais totalement gratuit et c'est un petit peu illusoire de penser qu'on va faire les choses par vraiment totale gratuité. Donc bah, le truc qu'il y a derrière, c'est quand même assez éloigné finalement du libre à bien des égards. Sur ces critères, ils sont quand même assez larges, mais finalement il n'y a pas d'objectif. Dans le logiciel libre, on n'avait qu'un objectif de liberté individuelle, de contrôle de son informatique et de partage du savoir.
Donc, là, on pourrait parler d'un objectif qui serait une déontologie du journalisme basée sur ses principes.
Ouais, alors il y a quand même pas mal de critères qui sont dans la déontologie normale qu'il devrait y avoir chez les journalistes. Alors, elle n'est pas toujours respectée, donc c'est évidemment louable de vouloir la remettre en place. Mais, enfin, moi, je suis pas totalement convaincu par l'article. Bon, après, c'est qu'un article. Mais ça donne un peu l'impression d'avoir une coquetterie et de finalement de voir le journalisme classique comme une espèce de gros monolithe très simple. Ça a l'air assez simplificateur, à mon sens. Voilà, je suis pas tout à fait convaincu par ce truc-là. Cameron Voice réplique Anonymous prépare un système d'exploitation anti-NSA. Un article de la rédaction.
Donc, quelque chose qui est apparu sur plusieurs sites. Et là, qui apparaît sur un site en passant par une radio, la Voix de Russie. Et donc une déclaration, une annonce en quelque sorte, une prévision qui aboutirait au 5 novembre de l'année prochaine d'un système d'exploitation fait contre la NSA par les Anonymous pour contrer la NSA et pour permettre de l'anonymat sur Internet, de la sécurité, de la fiabilité.
Donc ça, c'est de l'info de journaliste bien sérieuse, c'est-à-dire que c'est un truc passé par une radio russe relayé par un site camerounais. D'une information de ce que pourraient faire des gens totalement anonymes. Donc c'est hyper, hyper solide, quoi.
Exactement, c'est pour ça que c'est là, c'est important. Le nom de cette distribution, ce serait Blackout Linux. Je rappelle qu'Anonymous, bien, généralement, il n'y a pas de nom derrière. Donc celui qui a déclaré qu'il allait faire ça, allez savoir si ce sera suivi de fait, ça va être compliqué à vérifier. Mais c'est quand même amusant à voir venir.
Ça rappelle un article dont on a parlé il y a quelques semaines avec quelqu'un qui disait que l'attaque de la NSA... En tout cas, les révélations sur la NSA étaient vraiment inquiétantes puisque les Anonymous n'avaient pas réagi et que si c'était fait, enfin, ils n'avaient pas réagi effectivement, c'est que le danger était vraiment réel et qu'en gros, ben, ils balisaient et c'était pour donner la mesure dans l'importance de la NSA. Donc je ne sais pas quel crédit on peut apporter à cet article-là. Hein, moi, j'attends de voir.
Oui, n'est-ce pas ? On va attendre le 5 novembre de l'année prochaine.
Surtout qu'il ne dit pas que c'est la sortie de la distrib, hein, il dit simplement qu'il va se passer des trucs. Donc ça peut être n'importe quoi.
En tout cas, basé sur du logiciel libre, Linux notamment, ce serait des choses qui seraient forcément bien sûr simples à utiliser, distribuables sur clé USB, probablement qui intégreraient des outils comme Tor, hein, qui sont des outils intéressants. Et je vous encourage à aller les télécharger. Il y a des distributions de navigateurs simples à installer.
Alors il y a un site qu'on peut mentionner, c'est pas dans l'article, mais bon, on fait une petite entorse à nos principes. C'est Prism Break. Donc évidemment, quand on le fait avec le super accent américain, parce que évidemment je suis bilingue, ça sonne un peu comme Prison Break, comme on dit chez nous. Donc là, c'est Prism Break. Vous pouvez chercher ça dans votre moteur de recherche favori. Et il y a tout plein de conseils sur des navigateurs, sur des plugins à rajouter dans Firefox. Donc des trucs qui sont, dans certains cas, pas contraignants du tout, bien au contraire. Là, il y a un plugin que moi j'ai installé qui s'appelle Disconnect et qui va bloquer les trucs de stats. Bloquer également tous les petits bouts de code de type les j'aime de Facebook, les plus 1 de Google+, etc. Donc ces machins qui surveillent tout ce que vous faites et qui en plus de ça alourdissent la page. Donc en installant ce truc-là, vous évitez que toutes ces infos de vos navigations remontent vers ces gros opérateurs et en plus de ça, vos pages se chargent un peu plus vite. Donc vous avez tout gagné. Allez sur cette page, Prism Break, il y a plein de petits trucs de conseils, d'alternatives, c'est un truc à visiter. ZDNet, marché public et logiciel libre, une circulaire du préfet de l'Isère rappelle les règles. Un article de Thierry Noisette. Ça fait au moins la troisième semaine qu'on parle de ce truc-là.
Non, t'abuses, c'est la deuxième semaine, mais c'est quand même intéressant. Et cet article va un peu plus dans le fond, dans les détails. Donc, en gros, un marché public, ça doit être neutre. Un marché public ne doit pas faire référence à une technologie bien précise et une entreprise. Et eh bien là, il y a un retour
ça
à
l'ordre. Ça rentre vraiment dans le détail. Alors, ça nous cite, ça fait plaisir. On a pris les cités dedans, il y en a d'autres également. On va pas en reparler encore, parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Si vous voulez vraiment avoir du détail sur ce qui a été dit dans cette circulaire, quels sont les arguments, etc., allez lire cet article. Il est assez détaillé là-dessus, donc ça, c'est pas mal. ZDNet à nouveau, LPM, aux données personnelles, la patrie reconnaissante. Un article d'Antoine Duvauchel.
Donc la LPM, c'est la loi de programmation militaire, et ça passe en ce moment devant les députés.
Et quel rapport entre la loi de programmation militaire, parce que je crois que ça parle essentiellement de budget, et nos affaires ?
Eh bien, justement, un gros rapport, c'est le terrorisme, tu comprends, les pédonazis, tout ça. Il y a des gens qui sont très méchants sur Internet, et comme il faut les combattre, il faut se défendre, eh bien on va donner plus de droits aux autorités pour accéder aux données privées, aux données que les fournisseurs d'accès conservent. On va les obliger à conserver ces données encore plus longtemps et on va permettre des accès bien plus facilités que ce qu'il y a aujourd'hui.
Voilà, sans nécessairement passer par un juge, des trucs en temps réel, des trucs sur simple requête administrative. Donc on voit le principe qui fait toujours peur sur ces histoires de données personnelles, c'est qu'on ouvre une brèche avec un prétexte ou éventuellement même une vraie cause, bon, même si sur celle du terrorisme, je ne suis pas totalement convaincu, personnellement.
Mais il y en a d'autres, hein. C'est aussi pour répondre à des attaques informatiques, c'est pour faire attention aux choses qui portent atteinte au potentiel de guerre.
C'est le cadre dans lequel on pourra utiliser ses pouvoirs spéciaux.
Voilà, ça le potentiel très, très économique, voilà. La capacité de survie de la nation, des trucs de folie, mais on peut appliquer ça à tellement de choses.
Et oui, et donc c'est un peu ce principe, on enfonce le coin et après ça, on élargit et on se retrouve avec un système de surveillance, hein. On a toujours le plan Vigipirate en place depuis 15 ans. Et nous, à Paris, on voit régulièrement des militaires avec des fusils d'assaut chargés qui circulent dans les gares. Et voilà, ça fait 15 ou 20 ans que ça dure. Initialement, ça devait pas durer. Et l'article constate également que la CNIL, là-dessus, ne dit rien.
Et oui, parce qu'a priori, toutes ces données, les problèmes de vie privée, des accès automatiques à des données vraiment au cœur du réseau, eh bien la CNIL aurait son mot à dire là-dessus. Pour l'instant, c'est la grande muette, ce qui est amusant par rapport à l'armée.
Hein. Oui, normalement, c'est elle qui se tait. Mag 14, à quoi joue l'État tunisien avec Microsoft ? Un article de Moez EK, donc un pseudo. Ben ça, c'est la contrepartie de ce qu'on avait cité la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus.
Et qui était à l'ordre du jour dans de nombreuses revues de presse, parce que la Tunisie, il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé.
Et donc le gouvernement avait annoncé un super plan pour faire du logiciel libre au niveau de l'État, et tout, c'était super. On avait quand même rappelé qu'il y avait un certain passif entre Microsoft et le gouvernement tunisien.
L'article en reparle, ouais. Hein, c'est toujours amusant d'ailleurs, ouais. On peut peut-être citer...
Oui, alors oui, effectivement, on avait cité le fait qu'il y avait des liens entre Microsoft et une chaîne de télévision, enfin en tout cas qu'il y avait un couple avec l'un qui dirigeait Microsoft Tunisie et l'autre qui dirigeait la chaîne de télé. On savait également que Microsoft avait fourni des solutions de surveillance de la population.
Oui, grâce à son navigateur et à des problématiques de certificats où ils avaient autorisé à faire des écoutes.
Voilà. C'est juste que des boîtes françaises font très bien aussi.
Ah, on est très très bon pour ça. On avait travaillé avec la Libye notamment.
Tout à fait. Et on apprend dans l'article un truc assez rigolo, c'est qu'en octobre 2007, le trophée Microsoft pour le leadership mondial en technologie de l'information a été décerné à Ben Ali.
Ça fait plaisir. Et effectivement.
Mais il devait être content.
Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce même genre de trophée serait décerné au gouvernement actuel de la Tunisie ? C'est ce que, justement, se pose comme question l'auteur. Et puis, bah, il parle de la relation entre Microsoft et Amar 404, qui est le surnom des gens qui bloquaient un peu... Voilà, qui bloquaient Internet.
C'est le terme que les internautes tunisiens ont trouvé pour parler de la surveillance, de la censure, etc. Donc, c'est le Big Brother tunisien.
Donc ça fait mal au cœur parce qu'il y avait eu beaucoup d'efforts, des gens qui parlaient de logiciels libres, de liberté, d'ouvrir l'État à d'autres façons de travailler, les administrations à utiliser des logiciels qui pouvaient s'accaparer réellement. Et là, ce serait une mainmise de Microsoft sur
un
État.
C'est un petit peu comme chez nous, hein, je veux dire, il y a une circulaire Hero et derrière, il y a l'accord Open Bar Microsoft avec le ministère de la Défense.
Il y a un peu de ça, donc c'est rageant, effectivement. On verra s'il y a d'autres conséquences dans les médias notamment. En tout cas, voilà. C'est ce qui arrive en ce moment en Afrique du Nord.
Mediapart, cher monsieur le hacker, on voudrait quand même un peu te remercier. Un article de Mélanie Vogel et Sonia Roubhabi.
Donc, c'est deux assistantes parlementaires du Parlement européen et le hacker, on ne connaît pas son nom, il me semble, mais c'est quelqu'un qui a fait, qui a montré qu'on pouvait assez facilement accéder aux mails c'est du Parlement européen.
Voilà. C'est une affaire qu'on avait évoquée la semaine dernière.
Exactement.
Qui a fait un petit peu de bruit, donc avec des moyens très simples, hein, du Wi-Fi, des trucs vraiment pas compliqués. Il a réussi à choper les mails de plusieurs personnes, dont ses assistantes parlementaires, et c'est une sorte de lettre ouverte qu'elles lui écrivent. Alors c'est assez humoristique, elles le tutoient, elles disent qu'effectivement c'est quand même un petit peu embêtant de se faire pirater, mais qu'elles n'ont pas grand-chose à cacher.
Oui, qu'au moins il est au courant de quel genre de café elles prennent, voilà. Quand, avec qui elles ont discuté.
Alors elles font un petit peu la pub de leur camp, hein, c'est les écolos en disant qu'ils ont toujours été actifs là-dessus, etc.
Et qu'ils sont très, très transparents, et qu'au contraire, ils veulent partager les données, voilà. Qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là.
C'est comme un gros côté d'autopromo, il y a au moins 2-3 paragraphes là-dessus. Et après ça, elle dénonce le véritable scandale qui, pour elle, est le fait que le Parlement achète du Microsoft à tour de bras depuis des années, que les lobbies rentrent un peu comme ils veulent et ce genre de choses. Et que là, pour le coup, c'est le vrai scandale pour elle, plus que le fait que le mail ne soit pas bien verrouillé.
Donc, petit article sympathique. Elle évoque aussi les accords et les négociations avec les États-Unis, le TTIP, dont on parlera sûrement dans le futur, les révélations d'Edward Snowden, ou les Verts, justement, et t'as raison, hein, elles se font mousser, les Verts avaient proposé de lui fournir un prix Nobel, hein, le prix Nobel de la paix, il me semble.
Non, c'est pas celui-là.
Non, le prix Sakharov, tu as raison. Et donc, c'est vrai que c'était quand même assez important. Mais bon, allez voir l'article, il est rigolo. Et puis ce sujet-là, il est vraiment intéressant parce que ça parle de nos autorités et des logiciels propriétaires qu'on paye.
Lagazette.fr, le fouillis des licences Open Data s'éclaircit à un article de Sabine Blanc, je pense.
Donc c'est un article pratique, c'est une fiche pratique qui reparle des quatre libertés, mais...
Alors, c'est la Gazette des communes, hein, donc c'est un truc qui s'adresse aux collectivités territoriales et qui fait un gros bilan sur l'Open Data et sur les licences qui existent. Donc là encore, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez vraiment du détail sur les licences et comprendre un peu ce qui se passe, l'article va les citer une par une et donner des éléments dessus, donc c'est un bon défrichage pour... voir un peu quel est le terrain.
Petite chose intéressante que je remontre bien de l'article, c'est qu'effectivement, il précise que les licences actuellement ne sont pas bien utilisées. Il y a beaucoup d'infractions, mais c'est pas grave. Ces infractions sont tout à fait tolérées, mais ça leur permettrait peut-être plus tard d'avoir un usage, d'être utile, de pouvoir retomber, je ne sais pas, sur les contrevenants aux licences.
Tant qu'il n'y a pas d'abus, on va laisser courir. Moi, je l'ai compris. Alors, c'est un petit peu ambigu dans l'article. La façon dont je l'ai compris, c'est que en gros, ils ont un peu de mal à ce que ça décolle et s'ils veulent que des gens s'en occupent, enfin, en tout cas, utilisent les données de l'open data, enfin, pas trop les embêter, et que si on commençait à faire respecter les licences et à casser les pieds à tout le monde, on allait faire fuir tout le monde et la dynamique allait se casser. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le truc, ce serait intéressant de fouiller. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que voilà, il y a un peu ce côté qui, juste de façon opportuniste, vont profiter sans renverser et sans se dire qu'ils sont dans un mouvement général. Donc, il faut voir ce que ça donne, un truc à surveiller.
Bon, en tout cas, si vous êtes dans l'administration, par exemple, allez jeter un œil sur ce genre d'article. C'est informatif, on voit les licences. Il y en a quatre qui sont à peu près regardées.
Voilà. Donc, l'idée étant que ça se concentre et que tout le monde utilise les mêmes. Et manifestement, ils vont dans l'idée de ne pas avoir 36 000 licences, ce qui évidemment est très intéressant quand on veut utiliser des données de sources différentes.
Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Manu. Merci à toi et bonne semaine à tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie pour cette revue de presse. Yuri, c'est notre fil musical du jour, de la musique libre qu'on peut trouver sur Jamendo ou sur le site de l'artiste I Am Yuri. I am comme I am, Yuri, yuri.com. Un artiste né à Minsk en Bélarussie, dont la famille a déménagé régulièrement. Kiryat Shmona en Israël, Toronto au Canada, Little Rock en Arkansas. Depuis une dizaine d'années, il est installé à Pittsburgh en Pennsylvanie, une ville qu'il considère fièrement comme la sienne. Donc aujourd'hui, et on va en écouter tout de suite un premier extrait qui nous emmène loin. Le titre, c'est Away. Yeah.
Oh shit. And I made the beat. No samples. Very proud. Self-medicated, feeling hell-fitted, and I wouldn't give a damn if I never made it. Gotta grind hard,
I put in work, sick of OG, so I put in perp, that's how I be. Don't even judge, save all your breath, cause I don't give a fuck. Focused enough to know that they suck. Those that be fronting gon' think that this luck. Work in progress, no broken dreams. I don't even know what broken means. How in life in these potent greens, I play the role that I'm supposed to be. I hold the key to my future. Got grown pains, no suture. They know the name and they will, though. Fuck around and make a meal, whoa. Keep trail, so you already know the deal, bro. I kill foe, a legitimate chance. When they throw in bills in advance, and I wouldn't pull a homie, but these beats is getting bodied. All original, no copy. You try, it'll end up sloppy. You need some discipline. This word got motivation. Good vibes always come and go, and it leads to more frustration. So when you on a roll, keep the code like on a roll. Gotta keep it honorable, even when dealing with lots of foes. My mind floats away, I can't control it. Lost in the haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, do you know what that feel like? That feel like my mind floats away, I can't control it. Lost in the haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, yeah. Do you know what that feel like? That
I
feel
woke
like
up, peep the rap, I'm like hold up. All this music like throw up. Don't show up if you already know that your show sucks. And show enough, that's how it is. That's how it is. Ain't that a bitch? Them rappers say that's how I live. Thus I reply, that's out of shit. They acting complacent, and I be exactly adjacent to all of that fake shit. Now that there's time wasted, like if you suck from the get go, I think you should let go. You just getting gassed like a gecko. I guess everyone is forgetful. My check. Keep grinding till I get them diamonds on my neck. And I ain't superficial, keep your issue, keep your issue. But really though, I do what I does. You feel me, for real, be what's it to you? Just because I be the illest, you heard that you ain't hear before word. Just writing and thinking, a bit of weed and some drinking. But I ain't do it too much, at least with the liquor. With the weed, you know what's up. In the end, still don't give a fuck, don't give a fuck, don't give a
fuck. My mind floats away, I can't control it. Lost in the haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, do you know what that feel like? That feel like my mind floats away, I can't control it. Lost in the haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, do you know what that feel like? That feel like that.
Away, l'artiste s'appelle Yuri, c'est disponible sur jamendo.com, son site c'est iamyuriyury.com et c'est sous licence Creative Commons by SA 3.0. Le week-end dernier se déroulaient les JM2L du côté de Nice, des rencontres qui pendant deux jours ont permis à plein d'intervenants de venir donner des conférences et animer des ateliers. La Core Team des RMLL 2014 qui se dérouleront à Montpellier début juillet y était présente en force et c'est Jean-François Ferry qui a inauguré son rôle de reporter et qui a tendu le micro de Divergence Numérique à Véronique Fritière, co-organisatrice de la manifestation, pour un petit bilan sur le vif.
On air.
On air. Salut Gilles.
Quand salut même, Gilles.
On fera le montage.
Allez, on te le redit, joyeux anniversaire, c'était il y a pas longtemps, ça vaut le coup.
J'y étais. Joyeux anniversaire.
Waouh.
C'est cool. Bon, Véro, bonjour.
Bonjour.
On vient de passer deux jours à Sophia Antipolis pour les JM2L. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cet événement?
C'était déjà la 8e édition. Quelle aventure! On s'est drôlement bien amusé.
Est-ce qu'il y avait un peu de monde?
Mais on savait plus où les mettre. Il y en avait partout.
Des geeks?
Des geeks, des
gens
libres, des gens libres, des gens sympas.
Ce qu'apporte cet événement?
Tout le monde a pu parler de tous ses projets. On a eu de l'avenir climatique, des formats ouverts, du réseau alternatif. On a testé des tas de produits à droite à gauche. C'était très très sympa. Tout le monde est venu. Il y avait des gens d'Amiens, des gens de Sallanches, des gens de Paris, des gens de Montpellier. Tout l'arc méditerranéen était représenté. C'était formidable. Ils ont tous répondu présent. Ils n'ont pas arrêté une seconde.
Il y a eu quelques conférences, notamment certaines sur la neutralité du net.
Encore Benjamin Bayard.
Encore
une
lui.
Merveille. Il a eu la gentillesse de répondre à notre invitation en un clin d'œil. Il était là, présent, charmant. tout lui, quoi.
Un peu de musique également, qu'on a pu entendre tout au long de ces deux jours.
Assisté par ordinateur, avec des concerts formidables en fin de journée, vous avez tout raté.
La suite, l'avenir, l'année prochaine.
2014 se profile très très vite. On a eu de très très bonnes nouvelles. Il paraît que... on est en lice pour recommencer avec nos partenaires privilégiés, l'école Polytech Nice.
Conclusion.
Eh bien, aujourd'hui, on avait un peu de pluie. Hier, c'était grand soleil. Et ça n'empêche que, quand même, chacun a fait un petit effort et est venu avec son rayon de soleil dans le cœur.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine. Et vivement les RMLL à Montpellier.
Et merci à Jean-François Ferry pour cet entretien. Benjamin Bayard, président de French Data Network, était présent à ces JM2L. On va l'écouter dans quelques petits instants au cours d'un entretien téléphonique, mais un petit interlude avec notre fil rouge musical du jour, l'artiste Yuri, extrait de l'album Still Life, ça s'appelle Illusions. Petite interlude signé Yuri dans cette 188e Divergence numérique. Nous saluons au passage les auditeurs de Divergence FM, qu'ils soient sur le 93.9 de Montpellier, qu'ils soient sur les 103.3, 102.0 et 104.1 de Radio Escapade, où on nous écoute le mardi à 14h et le jeudi à 9h, et sur le 87.8 et le 98.6 de Radio Larzac, où on nous écoute le lundi à 21h et le jeudi à 11h. Et il est à présent l'heure de retrouver cet entretien avec Benjamin Bayard, né le 24 octobre 1973, expert en télécommunications et président de French Data Network, qui, on ne le sait que trop peu, est le plus ancien fournisseur d'accès à Internet en France encore en exercice. Un militant pour les libertés fondamentales que nous recevons assez régulièrement dans Divergence numérique. L'occasion aujourd'hui de faire un retour sur l'activité gouvernementale qui, vous allez le voir, n'est pas facile. Nous sommes en ligne avec Benjamin Bayard. Bonjour Benjamin.
Bonjour Gilles.
Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas eu au téléphone pour parler notamment de neutralité du net, thème que tu as abordé dans le cadre des JM2L qui se tenaient le week-end dernier à Sophia Antipolis. Ça s'est bien passé ?
Oh bah ça se passe toujours bien à Sophia Antipolis. Ce qui ne se passe pas bien, ce n'est pas tellement l'organisation des conférences. C'est ce que les différents gouvernements sont en train de faire avec le réseau.
Voilà, alors il y a pas mal de thèmes qui ont animé les 6 derniers mois. On n'a pas énormément parlé finalement de neutralité du net.
Sur l'aspect neutralité du net, il y a des éléments qui sont très inquiétants et qui relèvent pas spécialement de l'affaire Snowden, qui est elle-même quelque chose d'extrêmement inquiétante, mais qui pour moi représente... En fait, c'est une question globale. La question est de savoir, est-ce qu'on peut avoir confiance dans le réseau qu'on utilise ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le réseau pour obéir à ses utilisateurs et non pas à une troisième personne cachée derrière? Et c'est une question globale en informatique. C'est la même quant à des problèmes de DRM. La question est de savoir à qui obéit l'ordinateur. Est-ce qu'il obéit à son développeur ou est-ce qu'il obéit à son utilisateur? Et en fait, si tu veux, une fois que tu as compris l'angle pour lire ça, où la question est de savoir à quel moment tu peux faire confiance à ta machine, tu as exactement la même logique qui est derrière le logiciel libre, qui est derrière les questions de neutralité, qui est derrière les questions de surveillance générale. C'est toujours la même logique à l'œuvre. Est-ce que tu peux faire confiance à ta machine ou est-ce que quelqu'un essaye d'utiliser ta machine pour te manipuler ?
Ce thème-là, on l'a un petit peu abordé aussi à travers la question des e-books. Tu faisais allusion au DRM. Là aussi, le gouvernement, il y a des bonnes idées, puis on les abandonne vite fait, bien fait.
Bah, pour le moment, au gouvernement, il n'y a pas beaucoup d'idées sur la question. C'est un des problèmes majeurs.
L'idée de la TVA plein pot pour les e-books DRMisés n'était pas une bonne idée, selon toi ?
Ah si, c'était une bonne idée, mais elle ne venait pas du gouvernement. C'est une idée qui a été proposée par la députée Isabelle Attard. Ça a été trouvé, ça a été jugé séduisant par beaucoup de gens à gauche. Donc ça a été voté une première fois, puis Bercy est arrivé en disant « Oh là là, attendons, surtout pas, faites pas ça, déconnez pas, les éditeurs vont râler, on va encore se faire gronder. » Déconnez pas, les ayants droit vont pas être contents, ils vont plus accepter de faire de notre promotion quand on fait des meetings. Déconnez pas, arrêtez, enlevez ça tout de suite, on va se faire gronder. Mais voilà quoi, l'idée était séduisante, bonne, j'en sais rien, économiquement je suis incapable de la justifier, mais il se trouve que ça collait bien quoi. C'était une idée qui collait avec plein de points. La TVA a tout réduit, c'est pour les livres. Et à partir du moment où il y a des DRM dessus, c'est plus un livre, c'est une licence d'exploitation. Et une licence d'exploitation, c'est comme une licence logicielle, c'est TVA à tout plein. Ça collait bien, c'était pas bête, ça rentrait vachement bien, quoi. Après, je suis pas sûr que ça corresponde de la part de notre gouvernement à une belle et bonne compréhension des enjeux. De la part d'Isabelle Attard, si peut-être, de la part du gouvernement, pas clair.
Donc il y a un monde entre la majorité et le gouvernement.
Ben non, c'est malheureusement plus compliqué que ça. D'abord, il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi toutes les administrations centrales. Tu ne peux pas demander à un ministre de comprendre tous les sujets, donc il s'appuie sur un certain nombre de conseillers, et puis surtout, ce qui fait tourner la machine en France, ce sont les administrations centrales, les directeurs d'administration centrale, etc. Ceux-là, ils ne changent jamais. Il change quand il y en a un qui est trop vieux et qui meurt, ou à la rigueur qui part à la retraite. C'est très stable, cette partie-là. C'est un des problèmes assez sérieux, c'est que dans le paysage politique en France, s'il y a des gens qui ont une vision de ces enjeux-là et qui ont une compréhension de ces enjeux-là, qui sont les enjeux sérieux du XXIe siècle. Tu peux pas prétendre avoir compris le virage numérique que prennent les sociétés si tu n'as pas compris ces enjeux-là. S'il y a des politiques qui les ont compris, ils se sont pas fait connaître. Parce qu'ils considèrent que c'est pas un contenu électoral, ça change pas les élections, c'est pas là-dessus que les élections se décident. Et donc c'est peut-être un enjeu, mais c'est pas un enjeu affiché.
Qu'est-ce qui coince le plus finalement ? C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises, on va dire, de la base. On équipe, il y en a qui migrent, on déploie du logiciel libre, la circulaire Hero, etc. Et puis on a l'impression que du côté des révélations au niveau international, la NSA, Prism, Snowden, etc. On a l'impression du coup qu'il y a une espèce de fatalité qui s'abat sur le politique en se disant ah oui, mais alors on va pas pouvoir. Du coup, on fait machine arrière. On a l'impression au titre de se dire ah, mais c'est tellement énorme que de toute façon on pourra rien changer, enfin une espèce de fatalisme comme ça. Est-ce que tu partages cette vue et auquel cas, comment changer de prisme?
Bah, je partage certains éléments de cette vue-là. Il y en a que je partage pas. Je sais qu'on peut changer. Je sais qu'on peut changer ça pour cette raison très simple que tout ça relève du montage politique. Prism, c'est une création politique, c'est un engin politique fabriqué par les États-Unis. Tout ça peut changer parce que c'est du montage politique. En France, le principal problème, c'est que nos politiques veulent pas. Que le bon peuple soit pour, soit contre, tout le monde s'en fiche, les politiques veulent pas, donc ça n'aura pas lieu. Et ça me rappelle d'autres décisions relativement récentes dans d'autres domaines, genre le traité constitutionnel européen, t'as bien repéré, on vote non, c'est assez clair, et ça passe quand même. Ça me rappelle un petit peu ACTA, par exemple, où il y a des campagnes dans toute l'Europe, le Parlement européen finit par voter non, et ben du coup, c'est pas grave, ils reprennent les directives qui les intéressent et ils vont les mettre dans d'autres traités en cours de négociation.
Le traité transatlantique actuellement, oui.
Par exemple, oui, au hasard. Mais c'est aussi en train d'être collé dans un traité transpacifique, donc sur lequel, du coup, l'Europe est pas inclus. Mais qui servira plus ou moins de modèle à d'autres traités par la suite. Et puisqu'en Europe ça passe pas bien, on va le faire d'abord entre les États-Unis et le Japon, et puis ensuite, du coup, le traité entre les États-Unis et le Japon servira de modèle au traité transatlantique.
à cet échelon-là, ça va, sans mauvais jeu de mots, ça va être une guerre sans fin, en fait, où chaque fois, il y a la société civile d'un côté qui va pousser, et puis ceux qui, on va dire, s'assoient sur leur tas de cailloux, et puis ont pas envie d'en lâcher. Plus concrètement, sur l'histoire de la neutralité des réseaux, alors on essaye toujours un petit peu de faire de pédagogie dans Divergence Numérique, on revient toujours à cette image du facteur qui n'est pas censé lire ce qu'il y a dans votre courrier, sauf injonction d'un juge. Avec Internet, ça devrait être un petit peu la même chose, sauf que finalement, c'est la commercialisation des données qui pousse en fait à entraver cette neutralité aujourd'hui, on a l'impression, parce qu'il y a des énormes marchés qui se sont développés sur justement le traitement des données que les gens posent sur le net.
Oui, ça c'est un des enjeux clés. L'autre enjeu clé, c'est le fait que les acteurs commerciaux ont envie de pouvoir faire n'importe quoi, n'importe comment, sans responsabilité de leur part. Je te prends un exemple très simple. Il y a une question assez compliquée qui est de savoir qui est responsable quand il y a quelque chose sur Internet de pas bien. Ce débat-là, il a eu lieu au début des années 2000 en Europe, il a été tranché par un texte qui n'est pas totalement idiot, qui est la directive dite e-commerce. Et dans cette directive, on a posé à peu près deux principes. Il y a les gens qui sont hébergeurs, qui se contentent de stocker les données que les clients ont mis, qui n'y touchent pas, qui n'y regardent pas, en gros qui sont des loueurs de disques durs quasiment. Eux, ils sont hébergeurs, ils ne sont pas responsables de ce qu'il y a dans le disque dur, et on ne doit pas les embêter. En échange, ils ne touchent à rien. Et puis il y a des gens qui sont éditeurs. Par exemple, le rédacteur en chef du Figaro, c'est lui qui est responsable des articles qui sont mis en ligne sur son journal, parce que il a le droit de les retirer, il exerce un travail éditorial, hein, il retire des contenus, il modifie des contenus, etc. Et donc lui, il est responsable, il est éditeur de son site web. Donc ça, c'est un principe super simple, on comprend. Tu prends une boîte comme OVH, ils louent des serveurs, ils sont hébergeurs. Une boîte comme Le Figaro, ils sont éditorialistes d'un site web, ils sont éditeurs. Donc ils sont responsables du contenu. Et puis au milieu, tu regardes ce que fait Facebook. Et en fait, tu te dis, Facebook, ça devrait être hébergeur. Et puis, c'est pas clair. C'est pas clair parce que ils se permettent de censurer tout ce qui leur plaît pas. Et censurer tout ce qui leur plaît pas, ça porte un nom, et si on applique le droit de manière stricte, c'est éditeur. Donc ça veut dire qu'ils sont responsables de tout ce qu'il y a en ligne, et que du coup, les procès en diffamation parce que un gamin a dit du mal de son prof, il faut pas seulement mettre le gamin dans le box des accusés, il faut mettre Facebook, puisqu'il est éditeur. Quand tu fais un procès en diffamation dans la presse, systématiquement, l'éditeur est dans le box des accusés. Mmh. Et donc, ça, c'est une question qui est, pour moi, une des questions centrales. Et c'est un très bel exemple. Facebook veut le beurre, l'argent du beurre et la main de la crémière. Ça peut pas marcher comme ça. Et Google a exactement la même approche, et Apple a exactement la même approche, et ça peut pas marcher comme ça. Ça pose un problème dans un état de droit, puisque ça leur donne des pleins pouvoirs, et aucune responsabilité, aucune obligation en échange.
Un binôme, le pouvoir sans la responsabilité, qu'on retrouve aussi dans le marché de l'énergie, avec le principe du pollueur-payeur qui n'est pas en fait prévu dans les comptes de résultats ou les prévisionnels.
Oui, c'est du même ordre, oui. Mais c'est très classique. Si tu veux, c'est très classique dans le monde de l'économie. Visiblement, il y a des gens qui découvrent qu'une entreprise n'est pas un animal moral. L'être humain, un individu, c'est un animal moral. Il y a des choses qu'il ne fait pas parce qu'elles ne sont pas bien. Et il n'a pas besoin qu'il y ait une loi. Enfin, je veux dire, tu fais pas pipi par terre quand tu es chez les gens. Tu n'as pas besoin d'une loi pour ça. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a une loi que tu le fais pas. C'est parce que ça se fait pas, point. Il se trouve que les entreprises, tant que c'est pas strictement, précisément bien défini comme étant illégal et que c'est susceptible de rapporter 3 copecs, elles doivent en toute logique le faire. Ça, c'est un problème de fond. C'est un débat assez vieux. Mais le fond est là. Pourquoi est-ce que Facebook fait des choses bizarres avec tes données, alors que n'importe quel individu à peu près bien portant ne le ferait pas? Simplement parce que Facebook n'est pas un animal moral. Facebook est une organisation qui n'a pas qui n'a pas d'âme, si tu veux prendre du terme pseudo-religieux. Mais c'est une question de fond, ça, pour comprendre les problèmes derrière.
ce qui marche pas, on le voit un petit peu à l'œuvre tous les jours. Quelle décision courageuse faudrait-il prendre côté politique? Et puis côté politique, ça veut pas dire seulement de la part du gouvernement ou des élus, mais pour tous ceux qui nous entendent, ça veut dire prendre leur téléphone et téléphoner à leurs députés aussi. Je pense que ça veut d'ailleurs plus dire ça que la politique politicienne qui agite les hautes sphères. Qu'est-ce qui alors on l'a vu par exemple par rapport au truc de l'e-book, ce projet de TVA pourrait revenir sur le tapis lors du passage au Sénat, je crois ce sera pour bientôt. Qu'est-ce qui pourrait marcher globalement sur Internet, enfin en France pour l'instant ou en Europe?
Pour moi, les actions qu'on mène sont à peu près les bonnes. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de défendre un intérêt partisan, on n'essaye pas de défendre un camp économique contre un autre, on essaye de comprendre où se trouve l'intérêt général et de réveiller nos politiques sur « attention, vous n'avez pas compris la question sous-jacente, faites attention à ce que vous faites ». Pour le moment, on gagne un peu, on perd un peu, et c'est moins grave que si c'était pire. Globalement, si on était resté à se lamenter, ACTA serait passé sans difficulté.
Oui.
Donc, c'est pas rien. C'est quand même pas rien. Il arrive que la Commission européenne fasse n'importe quoi sur certains textes, mais on arrive à réveiller le Parlement. Il arrive que la Commission européenne fasse des choses bien sur certains textes, parce que, à force, même s'ils disent qu'ils sont pas d'accord, ils écoutent nos arguments et ils finissent par en entendre une partie. Le côté « il y a quelques libertés sur Internet qu'il convient de protéger », ils ont à peu près intégré. Typiquement, à l'heure actuelle, sur la question de la surveillance généralisée et de savoir si on fait une NSA à la française, la Commission européenne a des points de vue qui ne sont pas totalement idiots. Alors que les gouvernements, par contre, sont très calmes. L'exemple d'Angela Merkel est très drôle. Elle s'est réveillée le jour où elle a appris que son portable à elle était écouté. Tant que c'était tous ses concitoyens, elle s'en fichait. Une fois que c'était le sien à elle, elle a compris un peu de quoi on parlait. L'exemple français est savoureux. On vote en pleine affaire Snowden, en plein milieu, on vote tranquillement dans la loi de programmation militaire que les militaires, Bercy, le ministère de l'Intérieur, les services secrets, auront le droit d'intercepter à peu près n'importe quoi chez n'importe quel opérateur, sans aucun contrôle externe, sans aucun contrôle indépendant de la justice, etc., etc. C'est quand même assez joli. C'est-à-dire qu'ils sont en train de valider quelque chose qui ressemble à Prism, qui est un outil qui leur permet d'aller servir directement dans les serveurs des entreprises françaises, exactement comme la NSA se sert directement dans les serveurs des entreprises américaines. Et je pense, en fait, qu'il y a très peu de députés qui l'ont vu. L'article en question. Ils n'ont pas bien compris ce que ça faisait, ils n'ont pas percuté. Par contre, les politiques ou l'administration qui a préparé le texte, eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils sont en train de faire un prisme à la française et ils osent le laisser passer en plein pendant l'affaire Snowden. C'est quand même gonflé. Mais avec un peu de chance, en deuxième lecture, on pourra peut-être obtenir que certains députés se réveillent et calme le jeu, voire supprime le bout de texte en question. Ou introduise des vraies mesures de contrôle comme il doit y avoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser l'exécutif faire des choses sans que les deux autres pouvoirs soient au contrôle. Donc voilà, en faisant ce travail, et qui est toujours le même, hein, qui est essayer d'identifier les dossiers, repérer les éléments clés, alerter quand il est encore temps la partie du personnel politique qui veut bien entendre la société civile, ça peut toujours finir par passer.
Ça sera le mot de la fin. On ne saurait trop encourager du coup tous ceux qui nous écoutent à se renseigner s'ils ne connaissent pas ces problématiques sur les sites de la Quadrature du Net, de l'April ou autres, et puis à utiliser les outils qui sont à leur disposition, notamment le Pifone ou leur propre messagerie pour contacter les députés, parce qu'on a vu que ça a marché avec ACTA, ce qui était vraiment pas gagné. Donc le pot de terre gagne parfois contre le pot de fer, sauf que c'est la bataille a l'air sans fin. Alors c'est un petit peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est le premier qui s'épuisera qui perdra l'affaire. Donc ne nous épuisons pas, et puis ça fonctionne de prendre son téléphone.
Ça fonctionne pas toujours bien, ça fonctionne pas toujours assez, mais ça fonctionne. Et ça produit un effet, même quand on perd. Même dans les cas où on perd, ça produit un effet, parce que ça produit une prise de conscience chez nos politiques, ça les force à réfléchir à ces sujets-là, c'est toujours utile.
Merci beaucoup Benjamin Maillard d'avoir répondu à nos questions, au plaisir de se croiser en chair et en os dans une autre divergence numérique, sans doute aux rencontres mondiales du logiciel libre 2014 qui auront lieu début juillet à Montpellier. Bonne journée.
Bonne journée.
Vous l'aurez donc compris, la politique c'est aussi votre affaire, et peut-être votre affaire avant celle de ceux qui la pratiquent le plus. Un petit peu de musique pour se remettre avec toujours notre artiste du jour. Pour cette 188e divergence numérique, c'est Yuri, artiste hip-hop installé donc à Pittsburgh, Pennsylvania, mais au parcours, on l'a vu, assez globe-trotteur, extrait toujours de cet album Still Life, sous licence Creative Commons by SA, ce qui veut dire qu'il faut citer l'artiste et partager sa musique dans les mêmes conditions. Le titre que l'on écoute à présent, c'est Starving Artists, To Starve, ce qui veut dire crever de faim.
My name is Yuri. And I like to rap. Listen to that real pop. One below the villain, stop. Break it down and bust the move. Y'all just do the diddy bop. Spitting, I'm so witty, got rhythm like symbiote. Hope you ain't smoking up on a fitty. I could bump God, but I mean dough. So unbelievable, seems inconceivable that I would be this dope. Couldn't catch your legs staring through a kaleidoscope. Could imagine you bastard, better believe it, bro. Acting ratchet, maybe a bit sarcastic. Thinking that it's a habit, I mean it, I'm never acting. Feeding off all the blandness, I see it all in abundance. Everything gets redundant, me included, no fronting. Always keep it 100, otherwise I'd be nothing. Climbing up to the summit, I'm spitting until I vomit. High above and I love it, don't like it, then you can shove it. Faded and jaded, I don't really know what enough is. Enough is, enough is, enough is, enough is, enough is, enough is, enough is. I don't really know what enough is. Riveting, you never know. Put it on a pedestal. If you think it's out of hope, better if you let it go. Matter with the letter soap. Lay it down, let it soak. Schooling them with better notes. Nothing left except the glow. Pick your poison if you're choosing. Fake a facade. Who you fooling? Spit it how I live it. In the end, I'll get my retribution. That's the business. Ain't no gimmicks. I came here to paint a vivid. Everybody thank the critics. They ain't even pay attention. Can't even abstain from business. Metal in the nose, in it. Whatever they chosen isn't. Real life, it just throws them in it. Feel like I've been going with it. Relate to the pros of rhythm. Relay, run the beat, I'm winning. See me run three dimensions. Had to take a moment, ADD, but if they pay me, I'll keep the focus. Basically, I made a beat, illest ever, you may agree. Strange MC from A to Z, sat in the bar that's made for me. Made for me, made for me, made for me, made for me. Shout out Jeremy, we the fucking best, yes.
Très bon artiste, Yuri, c'est la musique libre que vous pouvez librement télécharger. Il faut simplement citer l'auteur et partager sa musique avec la même licence. Un artiste donc installé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Nous terminons en faisant un petit tour d'horizon pour cette 188e divergence numérique de ce qu'il va se passer dans le courant de cette semaine. Il y a quelques rendez-vous assez intéressants à retrouver sur agendadulibre.org. Le samedi 14 décembre 2013, de 9h à 18h, ce sera à Dijon, en Bourgogne, un hackathon open data à Dijon, donc sur les marchés publics. Plutôt intéressant. On peut retrouver donc toutes les ressources sur agendadulibre.org. Et puis aussi, ce sera le jeudi 12 décembre 2013, de 19h à 21h30, une conférence comment intégrer une maquette HTML dans un thème Drupal, un exemple sur un site responsive design. Si ça se passe loin de chez vous, et bien allez sur agendadulibre.org, vous retrouverez les liens pour pouvoir peut-être assister à distance ou en tout cas récupérer les enregistrements de ces interventions. Toujours sur agendadulibre.org, à Toulouse, mercredi 11 décembre de 19h à 23h, une rencontre logiciel libre avec l'association Tout Libre qui organise assez régulièrement des rencontres. Là, ce sera au Centre culturel Belgrade, 17 rue du même nom à Toulouse. Toulouse. Donc, n'oubliez pas agendadulibre.org.ch pour la Suisse.be pour la Belgique.qc.ca pour nos amis outre-Atlantique au Québec. Et plus près de nous, à Montpellier, l'agenda de l'association Montpellier Libre, sur le site de laquelle on peut retrouver tous les rendez-vous du mois de décembre avec les 10 et 17 décembre de 9h à midi à Téhéran, à la médiathèque Place du Ballon. Les ateliers libres Notion PC, OpenOffice.org et LibreOffice. Les 10 et 17 décembre aussi de 10h à midi à Castelnau-le-Lez à la MJC André Malraux. Les ateliers libres section GNU Linux, découvrir et installer Linux, initiation au logiciel libre. Les 12 et 19 décembre de 17 à 18h atelier GIMP, logiciel de retouche graphique dans le cadre des ateliers libres Notion PC à la médiathèque de Téhéran. On vous le rappelle et on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine du 10 au 13 toute la journée au Quorum de Montpellier. Ce sont les JRES 2013, les 10e journée réseau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sur le site de la communauté Emmaüs, ce samedi 14 décembre de 13 à 18h à Saint-Aunès aura lieu une présentation et installation Emmabuntu et logiciel libre comme tous les seconds samedis du mois. Si vous voulez rencontrer le groupe OpenStreetMap de Montpellier, ils seront au Coworking 19 rue de l'école de droit ce mercredi 18 décembre à partir de 19h. Et puis à noter, ce sera pendant les vacances de Noël, le vendredi 27 décembre de 18 à 20h les ateliers libres autour de GIMP LibreOffice. Et puis de 20h à 23h, rencontre et débat sur l'actualité du libre, les rendez-vous du libre. Ça se passera dans les deux cas à la Maison pour tous Mélina Mercouri, 842 rue de la Vieille Poste à Montpellier. C'est tous les derniers vendredis du mois. Retrouvez tous ces rendez-vous sur www.montpel-libre.fr. Et il nous reste suffisamment de temps pour nous quitter sur un dernier extrait de l'artiste du jour. L'artiste s'appelle Yuri. Il réside actuellement à Pittsburgh en Pennsylvanie. Des extraits des albums The Placebo Effect et Still Life. Une musique libre que vous pouvez librement partager. Ça se trouve facilement sur jamendo.com ou bien encore sur le site internet perso de l'artiste http://iamyuri.com. I am Yuri, IAMYURY. Et le morceau avec lequel nous allons nous quitter est une coprod de Yuri et Black Diamond et ça s'appelle Thinking. Alors je vous laisse à vos pensées, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout de rester libre.
Stacking and flipping plus three, scheming, I'm hoping I blow. Feeling for all of that dough. See me, I keep it 100. You know how all of that go. Stress is the presence and past perspective. I'm hoping go last. Jaded, I hate it, but changing's too complicated. And I wanna say, mama, I made it. At the least, I'm school educated. Got the world tested, my patience. So it'll leave you feeling frustrated. Good thing we smoking that piff. I'd be gone, damn, I'm faded. I ain't got time for no shit. Welcome to life and no script. Days I'll be feeling the same, kinda mundane, hoping to change. But if it don't, ain't even trip. High from life, taking a hit, that might be deep. Not really dope, don't put in the work, then you got to go. Trying to get these dividends, you know what the business is. Otherwise I would've split.
Under the pressure, shit is whatever. Dead on me, couldn't do better. Puffing the perp, leaning the smoothie. What I be on, ain't nobody doobie. I let it put doobie, my life is a movie. Ain't fuck with me, sue me. Fuck it, must get more money for my budget. Don't stress, I'm blessed. Invest my time on my grind. In that case, I'll be fine. Be fine. Not even there, but I don't trip. Life isn't fair, kind of a bitch. Cushion the air, my mind is a glitch. Maybe somewhere. Stay swear, it's insane here. Rap game, make a name there. Call me Yuri, my real name. But y'all sound real lame. Sleepless nights, indeed a vice. I need insight, do heat advice. My beats are right, BD and I. The flare goes hard, we be real hot. Looking through an evil eye. But that's life, don't even mind. Hip hop is what I be inside. That's how I wish to be defined.
Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les loutres, mais vous savez pourquoi vous aimez les logiciels libres.